première lettre de Pierre au chapitre 4. Nous lirons les versets 7 à 11. Alors, l'une des premières leçons que l'on apprend en homilétique, l'homilétique c'est l'art de la prédication, est de ne jamais commencer un message en citant une référence biblique. C'est ce que je viens de faire. Petite histoire est préférable en général. Bon, vous avez trouvé ce texte. Nous avons maintenant l'occasion de nous mettre à son écoute. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors la fin de toute chose est proche. Quel sentiment suscite en nous cet avertissement de l'apôtre, c'est la question que nous posions il y a seulement quelques semaines. Réconfort pour les uns, trouble, angoisse même pour les autres, à croire que le mot fin ne résonne pas de la même manière dans tous les esprits. Pour Pierre, en tout cas, nous l'avons vu, la fin qu'il évoque est tout sauf lugubre. Elle n'est autre que l'espérance vivante, comme il l'appelle, du croyant. Une espérance qu'il a longuement décrite au chapitre 1er, dans le fabuleux, comme le fabuleux héritage, dit-il, qui ne se peut corrompre, ni souiller, ni flétrir, promis dans les cieux, à tous ceux que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut, prête à se révéler au moment de la fin, au moment de la fin. La nouvelle pour lui est donc heureuse, la fin de cette ère si douloureusement marqué par le péché, la mort, le deuil, les larmes, les cris, la souffrance, la fin de ce monde-ci est proche. Notre triste monde bientôt ne sera plus remplacé qu'il sera par un monde nouveau, sous un ciel à jamais clément, une terre entièrement renouvelée où tous nous pourrons savourer enfin cette parfaite communion avec Dieu et avec les autres, pour laquelle nous sommes faits depuis toujours. La fin de toute chose est proche. Un message d'espérance, donc, je le répète, pour tous ceux qui, avec nous, attendent avec impatience le moment où, enfin pleinement sauvés, ils verront le Fils et au travers de lui, le Père, tels qu'ils sont, comme habillés de splendeur et de majesté, enveloppés d'un manteau de lumière, pour citer le psaume 104. Mais revenons à notre texte. Si la phrase qu'il ouvre a certainement pour but de réjouir notre cœur, elle a surtout pour objet, je le répète, d'éclairer notre esprit. D'abord, nous l'avons dit, sur le caractère éphémère de toute chose. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la terre et le ciel que nous connaissons ne sont pas éternels. Le moment vient, et voici, il est proche, annonce David, où ils tomberont en lambeaux comme de vieux habits. Et toi, Seigneur, tu les remplaceras comme un vêtement. Et ce qui vaut pour le cosmos vaut aussi, c'est évident, pour chacun d'entre nous. Notre vie, dit l'Écriture, est comme l'herbe des champs qui commence à fleurir, mais qui périt dès que passe le vent brûlant. La voilà disparue, sans laisser de traces. Ensuite, le texte nous éclaire sur ce qu'il convient que nous fassions en attendant la fin. Notre fin, autant que la fin de toute chose. Car autant que ses collègues, Pierre veut que nous sachions que ce que le Seigneur nous commande est tout le contraire d'une attente résignée et passive de cette fin. C'est à une attente active, au contraire, qu'il nous invite instamment par la bouche de ses apôtres. Se pose alors la question, que devons-nous faire en attendant la fin ? Faire ? La seconde partie du verset 7 nous livrait le mois dernier une première réponse. Soignez notre communion avec Dieu. Soignez notre communion avec Dieu. Les versets suivants nous en offrent aujourd'hui une seconde. Soignez notre communion avec les autres. Soignez notre communion avec les autres. Et c'est de ce second devoir que je propose que nous nous préoccupions ensemble ce matin. Soignez notre communion avec les autres. La fin de toute chose est proche, seconde partie du verset 8, dans la traduction de la Bible en français courant. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. La réponse de Pierre donc à la question « Que faire en attendant la fin ?» Aimer l'autre. Alors ce n'est pas la première fois que l'amour nous est présenté comme l'œuvre majeure qu'attend de nous celui dont le prochain retour marquera la fin de toutes choses telles que nous les connaissons. Jésus, puis Jacques, Paul et Jean n'ont cessé d'en souligner sinon la prééminence, du moins l'extrême importance. Pierre, ici, ne fait que confirmer le témoignage de son maître et celui de ses condisciples. « Ayez avant tout un amour constant, écrit-il, les uns pour les autres. » Notre devoir, donc, dans l'heureuse espérance de la fin, l'heureuse espérance de la fin, nous aimer les uns les autres. Et nous aimer, précise l'apôtre, d'amour constant. L'adjectif utilisé ici n'est, nous dit Samuel Benetrot, pas facile à rendre, et s'il le dit, tendu, étendu, ayant le maximum d'intensité et d'extension. Ainsi, les traductions diffèrent, grand ici, ardent là ou constant. L'idée générale n'en est pas moins claire. Notre vocation dans la joyeuse attente de la fin, nous aimer les uns les autres d'un amour vrai, c'est-à-dire sans borne, aussi profond, solide et durable que l'amour de Dieu pour les siens, que l'amour de Dieu pour nous. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Parce qu'il souhaite son discours pratique, il poursuit aussitôt en indiquant de manière précise de quelle manière concrète notre amour les uns pour les autres est appelé à se traduire. Parmi ces diverses manifestations possibles, il en cite trois fondamentales. Le pardon, l'hospitalité et le service. Le pardon, l'hospitalité et le service. Trois expressions tangibles de l'amour vrai que je propose d'examiner maintenant brièvement mais attentivement. Le pardon d'abord, le pardon. Seconde partie du verset 8, « Car l'amour couvre une multitude de péchés. » Il n'est pas de communion soignée, durable et bienfaisante entre chrétiens sans pardon mutuel. Or, le pardon n'est possible que là où règne l'amour de l'autre. C'est ce que rappelle la maxime que semble citer Pierre ici, Proverbe 10, verset 12, « La haine provoque les querelles, mais l'amour dissimule toutes les fautes. » L'appel ici est à cet amour vrai qui prend plaisir à pardonner. Qui prend plaisir à pardonner. Car telle est la signification du verbe « couvrir » dans notre texte, « dissimuler »,« cacher ». Non pas, comme on l'entend parfois, fermer les yeux sur, ignorer. Agir ainsi serait rendre un bien mauvais service à l'autre. L'amour, le vrai, l'aidera toujours, au contraire, à prendre conscience de sa faute, de manière qu'il puisse remettre de l'ordre dans sa vie. Mais plutôt, passer l'éponge, effacer. de telle sorte que la faute commise ne fasse plus obstacle à la communion. Pardonner, écrivait Martin Luther King, un extrait de son livre « La force d'aimer » que je cite souvent. Pardonner ne signifie pas ignorer ce qui a été fait ou coller une étiquette fausse sur un acte mauvais. Cela signifie plutôt que cet acte mauvais cesse d'être un obstacle aux relations. Le pardon est un catalyseur, écrit-il encore, qui crée l'ambiance nécessaire à un nouveau départ, à un recommencement. Pardonner signifie se réconcilier, pardonner signifie se retrouver. Ce que Dieu attend de nous, donc, dans ces temps de la fin où nous sommes, est on ne peut plus clair, que nous nous aimions assez pour trouver notre bonheur dans le pardon mutuel. Je t'ai fait du tort, tu m'as fait du mal, vous vous en voulez l'un l'autre, autant d'occasions pour moi, pour vous, pour nous, de développer et entretenir notre aptitude au pardon. Il en va de notre bonheur. Dieu n'a-t-il pas choisi de subordonner son pardon à lui, au nôtre? Mais pas seulement, il en va également de l'unité, de l'Église aussi, de son témoignage, et par lui, de la réputation, de l'honneur, de la gloire même de son chef, Christ. Et là, je prie, plaise à Dieu, que là où la faute, hélas, continue d'abonder, notre grâce, et pas seulement celle du Seigneur, notre grâce aussi, ne se lasse pas de surabonder. C'est une multitude de péchés que notre amour est appelé à couvrir, une multitude. C'est le vœu de Pierre à qui Jésus un jour fit comprendre qu'il se devait le pardonner chaque jour à chacun de ses frères, non pas une fois, ni deux ou dix ou vingt, mais 70 fois, 7 fois, autrement dit, indéfiniment. Telle est notre prière, que notre miséricorde, les uns à l'égard des autres, s'exprime aujourd'hui déjà dans un pardon sans limite. Mais si soigner sa communion avec les autres en apprenant à les aimer d'un amour vrai passe d'abord par l'exercice du pardon, soigner sa communion avec les autres passe aussi par l'exercice de l'hospitalité. L'hospitalité. Verset 9, cette fois, pratiquez l'hospitalité, écrit Pierre, les uns envers les autres. Pratiquez l'hospitalité. Et il ajoute, sans murmurer. Ou, comme le traduit la Bible en français courant, recevez-vous les uns les autres dans vos maisons, sans mauvaise humeur. Pierre, nous l'avons dit, ne se satisfait pas, comme nous parfois, d'abstraction ou de vœux pieux. En attendant la fin imminente désormais de toute chose, il importe, je le répète, que nous soignions tout particulièrement notre communion avec les autres. Comment ? Eh bien, en nous appliquant à les aimer d'un amour toujours plus profond, solide et durable. Bien, mais qu'est-ce qu'aimer les autres ? Couvrir toutes leurs fautes, nous a dit Pierre en un premier temps. Les recevoir chez soi, sans murmurer, ajoute-t-il maintenant. La fin de toute chose est proche, pratiquer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. L'occasion pour nous d'évoquer, une fois n'est pas coutume, le thème de l'hospitalité. Son importance d'abord, sa difficulté ensuite, l'importance de l'hospitalité. Les textes ne sont pas rares qui présentent l'hospitalité comme l'une des preuves tangibles d'un amour authentique pour l'autre et les autres. Cet amour que devraient produire en abondance les fidèles en général et leurs conducteurs en particulier. Soyez solidaires des saints dans le besoin, écrit Paul à tous les chrétiens de Rome. Sans distinction, exercez l'hospitalité avec empressement. Romains 12, 13. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux d'enfoncer le clou, que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité, Hébreux 13. quant aux conducteurs, pasteurs ou anciens, ils doivent, dit Paul, être hospitaliers. Notons par ailleurs ces instructions concernant les veuves âgées dans l'Église. Pour qu'elles puissent bénéficier d'une assistance matérielle, il faut, nous dit Paul, qu'elles soient connues pour leurs belles œuvres, qu'elles aient élevé des enfants et exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, assisté les affligés. Se pose maintenant la question, pourquoi pareil accent est-il mis dans notre texte sur cette manifestation particulière de l'amour fraternel? Réponse, parce que la fin de toute chose est proche, précisément. Et donc le jugement, qui, Matthieu 25, versets 35 à 43, révélera à tous le mystère de l'hospitalité. À travers l'hôte et en lui, c'est Jésus que nous accueillons ou repoussons, reconnaissons ou méconnaissons. L'hospitalité apparaît ainsi comme un test, celui de notre aptitude à discerner derrière l'autre la personne même du Seigneur. D'où l'importance pour nous d'exercer cet accueil de l'autre. Il n'est pas seulement la preuve que nous l'aimons, de l'amour dont nous avons été remplis, il est aussi le signe que nous l'aimons, lui, Jésus, assez pour recevoir celui qu'il nous envoie. Voilà pour l'importance de l'hospitalité. Il faut dire un mot maintenant de sa difficulté, la difficulté de l'hospitalité. Pierre ne l'ignore pas, qui précise « pratiquer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer ». Alors pourquoi cet ajout? Parce qu'autant que le geste lui-même, l'esprit dans lequel il est accompli est important aux yeux de Dieu. Or, s'il est un devoir qui peut être difficile, au point que sa réalisation engendre parfois murmures et mauvaises humeurs, c'est bien l'hospitalité. Pour commencer, tous les frères et sœurs que le Seigneur nous commande d'accueillir ne sont pas des anges. Il y en a même dont la compagnie peut se révéler éprouvante. Reste que par plus que notre cœur, notre porte ne saurait leur rester fermée. N'inviter que ceux qui sont aimables est à la portée de tous. De ses disciples, Jésus attend bien l'avantage que, ne faisant exception de personne, ils reçoivent sans murmurer tous ceux qu'il leur a donnés comme compagnons de route. À commencer, faut-il le rappeler, par les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, en un mot, tous ceux qui n'ont pas de quoi leur rendre la pareille. Ensuite, que ce soit en temps, en énergie ou en argent, l'hospitalité est toujours coûteuse. C'est un sacrifice. Mais un sacrifice que le Seigneur attend de nous et qu'il accueillera d'autant plus favorablement qu'il aura été offert joyeusement, comme pour lui. Mes amis, je m'adresse ici bien sûr à ceux d'entre nous qui peuvent accueillir l'autre. Tous n'en ont pas les moyens, aujourd'hui en tout cas. Qu'en est-il de notre pratique de l'hospitalité ? Recevons-nous régulièrement d'autres que les membres de notre famille ou nos amis intimes? Ou notre justice ne dépasse-t-elle pas celle des scribes et des pharisiens qui vivaient repliés sur eux-mêmes, n'invitant jamais, quand ils invitaient, que leurs parents, leurs amis ou des gens bien, des gens aimables et, si possible, riches? La question vaut d'être posée. Car de notre réponse dépend notre entrée dans le royaume des cieux, si j'ai bien compris l'enseignement de Jésus. Cela dit, si soigner sa communion avec les autres en apprenant à les aimer d'un amour vrai passe d'abord par l'exercice du pardon et de l'hospitalité, soigner sa communion avec les autres passe enfin par le service mutuel. Le service. Verset 10, traduction de la Bible en français courant, je cite donc, « Que chacun de vous, comme un bon administrateur des dons de Dieu, utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. » L'injonction de l'apôtre est claire. La fin de toute chose étant proche, il importe que chacun s'y prépare et s'y prépare activement. En aimant les autres assez pour se mettre tout entier à leur service. Nous retrouvons là un thème fréquemment repris par les apôtres et que je vous propose d'aborder maintenant sous deux angles, ceux de la vocation et de l'ambition de tout chrétien. La vocation de tout chrétien. Nous disons bien de tout chrétien. Le terme « chacun » que Pierre retient ici élimine tout doute possible. Nous sommes donc tous, désolé d'avoir voulu le dire aussi clairement, nous sommes donc tous immédiatement concernés et la vocation évoquée par l'apôtre est celle de chacun d'entre nous. Reste à savoir quelle est au juste cette vocation. Nous fondons sur notre texte, nous dirons qu'elle est double, consistante pour chaque fidèle à être un bon administrateur et un bon serviteur. Un bon administrateur d'abord. De quoi ? Verset 10. Du don particulier, nous dit Pierre, qu'il a reçu de la grâce de Dieu, varié en ses effets. L'Église est ainsi conçue comme un lieu de vie où l'on communique, travaille, c'est la maisonnée avec ses économes et son service. L'image est complète et belle. Chacun de ceux qui vivent à l'intérieur de ses limites doit à la grâce variée, dit Pierre, multiforme, bigarrée, pourrait-on traduire, de Dieu, d'avoir hérité au moins une capacité de service qu'il se doit en bon administrateur de faire fructifier au mieux. Nul ici ne peut donc prétexter qu'il n'a reçu aucun don particulier. Le Seigneur m'a oublié. Pour ne pas prendre une part active au labeur collectif indispensable à la bonne marche, au bon fonctionnement de la maison. Qui que tu sois, nous dit Pierre, Dieu t'a accordé au moins un don particulier. Et ce qu'il attend de toi, ce n'est pas que tu l'enterres, mais que tu l'exploites au contraire. Et cela avec d'autant plus de zèle que tu sais proche la fin, où toi aussi tu devras rendre des comptes à ton divin maître, et notamment t'expliquer sur la gestion du ou des charismes qui t'ont été confiés. Un jour rendre des comptes. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné ? Mais demanderez-vous comment bien gérer ce qui nous a été remis pour un temps, le temps de notre bref séjour sur cette terre ? Pierre nous apporte la réponse en mettant tout ce que nous possédons au service des autres, d'où ce second aspect de la vocation de chacun d'entre nous, être un bon serviteur. Être un bon serviteur, comment ? En mettant à la disposition de la maisonnée, pour reprendre l'image de Pierre, le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Mettez-vous, ordonne l'apôtre, chacun, selon le don qu'il a reçu, au service les uns des autres. Ici comme ailleurs, dans la correspondance de Paul notamment, toute capacité de service est, en même temps qu'elle est une grâce, et donc un privilège et un enrichissement est une responsabilité devant Dieu. Mieux, un ordre de mission que le Seigneur remet à chacun et dont l'Église maisonnée est appelée à bénéficier. Un ordre de mission. Notre époque est celle du triomphe de l'individualisme. L'Écriture tout entière est là pour nous rappeler la nécessité pour chacun des siens de faire passer l'intérêt commun avant toute chose. Tous les dons que nous devons à la seule grâce, aux multiples facettes, pour reprendre l'expression de l'apôtre Pierre, du Seigneur, n'ont d'autre fonction que de concourir ensemble au bien de la maisonnée tout entière. Qui que nous soyons, et quel que soit le talent particulier, naturel ou surnaturel, peu importe, dont nous avons été gratifiés, sachons donc mettre cette capacité de service particulière à la disposition de la communauté. Avec zèle, le zèle et la joie qui caractérisent les bons et fidèles serviteurs de l'Écriture. Voilà pour notre vocation. Quelques mots maintenant, enfin, touchant à l'ambition de tout chrétien. L'ambition. Il nous paraît que le verset 11 la résume admirablement. Glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Que sa diaconie, son service, son ministère soit celui de la parole ou un autre, Pierre ne précise pas. Le chrétien se doit de viser toujours la gloire de Dieu. S'il parle, qu'il veille donc à ne point transmettre d'autre message que celui de Dieu. Et si le don qu'il a reçu le presse de rendre à l'église maisonnée un autre service, qu'il s'assure de ne jamais dépendre d'autre force que de celle que Dieu lui accorde. Alors seulement tous sauront que Dieu est saint, totalement à part, absolument unique, tant sa sagesse exprimée dans nos discours paraît profonde et sa puissance manifestée dans nos actes sans limite. Et qui sait si, l'ayant ainsi perçu, ceux qui ne la connaissent pas encore ne seront pas éclairés enfin sur la personne glorieuse de notre Dieu et ne nous rejoindront pas pour se préparer avec nous, 1 Pierre 2, verset 12, à glorifier Dieu au jour de sa venue. Glorifier Dieu au jour de sa venue. Pour Pierre, en tout cas, il est clair que dans l'Église, en chaque activité comme en chaque membre, la glorification du Dieu de Jésus-Christ doit rester la préoccupation constante. Le reconnaître dans la joie et la reconnaissance, mais le donner à connaître aussi lui avec zèle, et souci de fidélité tel qu'il s'est révélé à nous dans les temps de la fin, où nous sommes en son Fils, resplendissement de sa gloire, expression de son être. Tout cela dans l'heureuse espérance de sa parfaite manifestation. Je conclus. La fin de toute chose est proche, annonce Pierre. Que devons-nous faire ? Dans l'attente heureuse de cette fin imminente désormais, que devons-nous faire? Soigner, nous l'avons vu, soigner. Soigner et notre communion avec Dieu en faisant montre d'assez de sagesse et de sobriété pour lui consacrer toujours plus de temps dans la prière. Verset 7. Et soigner notre communion avec les autres en nous exerçant courageusement au pardon sans réserve, à l'hospitalité sans murmure et au service sans limite. Afin que, seconde partie du verset 11, par Jésus-Christ, qui nous aura ainsi rapprochés à la fois du Père et de ses enfants, Dieu soit totalement glorifié, lui à qui appartiennent déjà gloire et domination, pour les siècles des siècles. Amen.